Alors, la dernière question, ou presque, concerne toujours, puisque lors de ces petits entretiens qui sont menés dans le cadre de cette rubrique de notre blog qui s'intitule donc la bibliothèque in situ, où nous profitons de la venue des artistes pour converser avec eux, j'aime bien lire un petit texte qui provient de notre médiathèque, et pendant que je vais le lire, ça va vous laisser le temps de réfléchir à un éventuel titre de recommandation, puisque c'est aussi l'idée de collecter des conseils de lecture ou d'écoute, hein, bien sûr, parce que vous œuvrez bien entendu dans le champ du son. Mais voilà, donc là je vais me permettre de lire, et puis on va le présenter pour les auditeurs, un petit texte qui ouvre en fait cet ouvrage paru en 2014 chez Hermann, édité avec le soutien de l'IRCAM, dont vous êtes un ancien étudiant, mais aujourd'hui sûrement encore un intervenant de cette institution. Et donc là, le titre est tout simple, et je l'ai évidemment choisi en résonance avec vos travaux, Produire le temps, un ensemble de textes réunis et coordonnés par Hugues Vinet. Et donc là, je me contenterai de lire, non pas Hugues Vinet lui-même, mais la citation que Hugues Vinet place en ouverture de son texte introductif. Et évidemment, on ne peut pas trouver, je dirais, meilleure citation que ce fragment de la dialectique de la durée de Bachelard, que je vous lis maintenant. Il y a donc, au-dessus du temps vécu, le temps pensé. Ce temps pensé est plus aérien, plus libre, plus facilement rompu et repris. C'est dans ce temps mathématisé que sont les inventions de l'être. C'est dans ce temps qu'un fait devient un facteur. On qualifie mal ce temps en disant qu'il est abstrait, car c'est dans ce temps que la pensée agit et prépare les concrétisations de l'être. Alors évidemment, c'est difficile, parce que Bachelard a souvent une certaine force poétique dans ses textes, de réagir après, je trouve, une telle force dans la pensée. Mais voilà, je voulais juste, entre guillemets, profiter de l'échange que nous menons là depuis quelques minutes pour vous présenter cet ouvrage, puisque c'est aussi ça, l'interaction aussi des échanges qu'on peut avoir avec des amis, des confrères, des collègues, ou simplement des rencontres que l'on fait au fil du temps, pour faire un petit jeu de mots. Et donc voilà, donc tout ça pour vous demander si vous voulez réagir à la fois à ce fragment, ou si vous, évidemment, j'imagine qu'en tant que chercheur, vous avez vous-même des lectures un peu nourricières, un peu sources, et est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur l'une d'elles, ou sur un penseur qui œuvre là encore dans divers domaines, qui peut être philosophe, qui peut être musicien, qui ayant écrit lui-même, quoi, ou simplement un compositeur. Voilà, la question est très très ouverte.
Alors, tout d'abord, la référence et ce livre me semble très très intéressante, et on a revu un peu les différents intervenants qui sont vraiment des sommités.
Effectivement, on peut juste le citer.
Oui,
aussi,
ce serait intéressant
puisque,
de citer les noms.
En table des matières, on trouve présence de plusieurs contributeurs, hein, donc Yves André, Patrick Flandrin, Thierry Paul, Gérard Berry, Jean-Louis Gavito, et Philippe Manoury, bien entendu, François Nicolas, Pierre-André Falade, François Regnault et Antoine Bonnet. Donc un ensemble d'interventions qui sont donc réunies dans cette belle anthologie, justement, avec un soutien large, puisque on peut le préciser là encore, hein, il y a à la fois l'IRCAM, l'École Polytechnique, l'Université de Sorbonne et le CNRS qui sont co-partenaires de cette édition.
Alors, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de Bachelard, et peut-être que je vais tout de suite, réatterrir dans le domaine qui est plus le mien, et qui comporte en effet deux aspects, mais il y a peut-être un écho indirect à ce que je viens d'entendre. Un premier aspect qui est, et ça je ne cesse à mes étudiants de le rappeler, de mes grands étudiants qui sont maintenant un peu internationaux, notamment à Paris, puisque j'enseigne aussi à Paris, la musique est le lieu de concept, de l'expression de concept, et pas forcément de percept, là, comme dirait Deleuze, pour moi, de l'expression de concept. C'est-à-dire que quand j'entends une œuvre, j'entends des concepts, j'entends des problématiques, et je suis en capacité de les dater d'une certaine manière. Enfin, quand je dis, je peux me tromper, mais très vite, je suis en relation avec cette datation des concepts et de leur évolution. Ça, c'est une chose capitale. On a tendance à dire, voilà, les artistes, ils sont un peu éthérés, c'est bon. Non, il y a un véritable travail intellectuel qui ne peut se passer d'un contexte global. Ça va à la littérature, aux sciences physiques, aux sciences mathématiques, aux sciences informatiques, aux sciences cognitives. Tout ça est réuni dans un même corpus d'action, d'une certaine manière. Donc je peux être très jugeant concernant mon travail, que je considère comme étant extrêmement primitif, et d'une autre manière je suis aussi très jugeant avec le travail des autres, quand j'entends par exemple que il y a un décalage entre les problématiques ou les outils et la production qu'on peut mener. Je peux être assez dur avec ça. Et d'une autre manière, la musique, c'est autre chose que du symbole, c'est autre chose que de la mathématique, c'est autre chose que de la physique, c'est-à-dire que là, on est dans un autre espace. Entre, il peut y avoir aussi d'autres espaces, mais on a d'ailleurs formulé ça avec Christophe Morgan, qui est un spécialiste de la géométrie, un mathématicien. C'est l'espace de la perception, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi une musique extrêmement bien calculée, extrêmement bien pensée, extrêmement bien construite, tout ce que vous voulez, qui n'a aucun sens perceptivement. Donc ça, c'est vraiment une question centrale et qui nous ramène à des questions historiques comme la musique sérielle, c'est-à-dire là où ce moment où la combinatoire a pris une importance jusqu'au moment où combinatoire pour combinatoire a créé des paradoxes qui font qu'on manie les chiffres et on manipule la perception. Hein, on voit très bien avec les seuls différents celles de perception et de la machine. C'est-à-dire on voit des chiffres qui tournent et puis on n'entend plus tout simplement les durées, les perceptions de hauteur et tout ce que vous voulez. Bon, c'est toutes ces questions qui me semblent vraiment essentielles. Donc, l'espace perceptif, l'espace symbolique, et puis, bien sûr, il y a l'espace que beaucoup aussi oublient, c'est l'espace du temps, mais du temps de l'histoire, l'espace du temps diachronique, et là, il est absolument capital. Il est absolument capital dans le sens qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 1909, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 1857, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 1950 quand, dans la première fois, un compositeur génère une œuvre de manière totalement aléatoire. Ça paraît complètement fou et jusqu'au moment où il va taire l'œuvre, parce que les 433 existent, mais les 00 aussi, c'est un geste important. On peut toujours essayer de réinventer l'histoire, d'oblitérer ces passages. D'une autre manière, l'histoire reste calée et ces moments sont absolument cruciaux. Et là aussi, on les entend. Une création qui fait l'économie de ces moments d'histoire, c'est une création qui oublie d'être créative d'une certaine manière là aussi.
Alors, merci pour ce long développement fort intéressant. Et j'avais quand même encore une question qui va être encore un nouveau clin d'œil à l'un de vos ouvrages, et notamment... à celui-ci, Manifeste du labyrinthe du temps, qui est tout récent, et vous demandez de feuilleter la prochaine édition de Manifeste, le festival de l'IRCAM, qui commence bientôt, début juin jusqu'à un mois, jusqu'à début juillet, et j'imagine que vous l'avez sûrement déjà consulté. Est-ce que, on tombe là sur de nouveau une rencontre autour de temps et musique avec Philippe Manorighi, et encore un écho à l'ouvrage, mais est-ce que... c'est un festival, évidemment, étant à Paris, que vous fréquentez, et est-ce que, vous, là peut-être de manière un peu plus, générale, l'IRCAM, on le sait, c'est un institut de recherche et qui est finalement assez peu connu du grand public, et qu'est-ce que vous pensez justement de démarches comme ce festival manifeste, ou l'invitation dans le FIMU, ou bien encore également la présentation dans le cadre d'une expo d'art contemporain comme en ce moment dans le cadre de l'exposition Le Champ des Terres, justement entre les espaces où l'artiste-compositeur travaille, on va dire, dans son espace dans lequel il n'y a pas forcément d'interaction à part avec d'autres confrères ou avec des étudiants, et des espaces qui sont finalement très différents, de type festival, où là, il peut y avoir une rencontre avec un public, certes amateur, mais aussi parfois des publics qui découvrent complètement ce type de d'œuvre.
Oui, alors là je vois, vous voyez, j'ouvre une page et je vois Gérard Puisé, qui est un de mes anciens maîtres au Conservatoire national de musique de Paris en orchestration. Bien
et
sûr,
Belfortin de naissance.
et bien sûr que là, en l'occurrence, il a réinventé le temps à travers cette écoute du son, hein, empruntée à Chelsea et d'autres, bien évidemment, ce n'est pas aussi une invention pure, mais en rajoutant par exemple l'aspect de l'analyse du son dans la reconstruction des espaces et des temps. Car on ne peut pas penser le temps aujourd'hui sans penser à l'espace. Et ça, c'est 1905-1915. C'est-à-dire que probablement, là aussi, on se doit d'inventer d'autres concepts que ce lien d'espace-temps. D'une autre manière, ce sont bien sûr des initiatives extrêmement importantes, et la France reste dans le monde, il faut le rappeler, un point central de culture, d'invention, de... Et d'une autre manière, je ne suis pas complètement sûr que ces endroits-là soient le centre des dimensions qui écartèlent les notions d'espace et de temps. En d'autres termes, je revois Stockhausen parler et en ouvrant son petit bouquin sur les dimensions, les échelles, et très préoccupé finalement de passer d'une forme visuelle d'appréhension quantique de la matière à une notion cosmologique. Là, on n'est plus du tout dans un festival. On n'est plus du tout dans un festival. Le labyrinthe du temps ne peut plus s'inscrire. Vous me parliez du film d'un concert, mais la problématique du labyrinthe du temps, c'est qu'elle articule aujourd'hui au ministère une, deux, trois, quatre, cinq, six cases, et donc six lignes budgétaires, dans le sens où elle ne rentre plus dans ces cases-là. Et moi, il me semble que le propre de l'artiste, c'est aussi de proposer, tout en collaborant, hein, c'est absolument essentiel. Et l'artiste se nourrit des institutions, se nourrit de ses collaborations, mais il doit être aussi porteur d'une écriture en marge, d'une écriture qui écartèle le temps, d'une écriture qui écartèle les espaces, et probablement qu'il est là aussi donc pour formuler des propositions qui n'appartiennent pas probablement aux institutions qui ont d'autres missions, des missions très très importantes, mais qui ne sont pas forcément celles que je décris. Donc le rôle de l'artiste dans son aspect individuel, en relation avec l'aspect collectif, est central pour offrir d'autres propositions. Et le labyrinthe du temps, pour revenir aussi à cette œuvre-là, c'est cette notion d'écartèlement, de tentative, en tout cas de proposition. On est dans des performances finies, mais sans une dimension aujourd'hui, ben, vous voyez, 2 mois. Ça, c'est très intéressant, cette possibilité qui m'est offerte au Centre Gantner. 2 mois, c'est vraiment un moment important pour moi, où la mémoire peut, on peut revenir sur des processus de mémorisation, des processus de mémorisation qui sont eux-mêmes accélérés à certains moments, qui sont dilatés jusqu'au seuil de perception. C'est toute cette question, après la question de la performance dans une ville, la question labyrinthique, et ce n'est pas forcément, vous voyez, les lieux d'institutions qui offrent ça immédiatement, en tous les cas. Et donc, ça doit rentrer dans des communications, de discussions. Et en tout cas, l'artiste est là pour tenter d'ouvrir et de proposer en ce sens.
Très bien, bah merci Stéphane d'avoir pris ce temps. Donc, on le répète, en plein cœur de votre lieu de travail ici au Conservatoire. Je propose qu'avant de clore l'entretien, qu'on laisse quelques sons, justement, encore. Venir être gravé sur notre bande d'entretien.